à tous et bienvenue sur Voyageurs de demain, le podcast qui vous fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un voyageur engagé pour vous donner des conseils et vous inspirer à voyager différemment. On aborde notamment les thèmes du changement climatique, de la transition écologique et du mode de vie zéro déchet quand on voyage ou que l'on s'installe à l'étranger. Pour en savoir plus sur mes invités et retrouver les notes des épisodes, rendez-vous sur le site du podcast. Une petite annonce avant de continuer. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez peut-être remarqué que le podcast qui s'appelait anciennement Globe Cleaners vient de changer de nom. Rassurez-vous, même si le nom a changé, les thèmes abordés restent les mêmes. Aujourd'hui, je reçois Clémence qui vient nous parler de son projet Mercycle. Elle est partie pendant 6 mois à vélo sur les routes de France pour aller à la rencontre des agriculteurs français. On a notamment parlé d'alimentation durable et de certaines des difficultés rencontrées par les agriculteurs, de véganisme, mais aussi bien sûr de voyages responsables. Elle a également partagé ses conseils pour s'équiper seconde main pour un voyage à vélo et trouver des solutions d'hébergement alternatives qui permettent de faire de belles rencontres. Je vous laisse avec mon invité. Bonne écoute. Bon, ben d'abord, bonjour Clémence et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Hélène, merci à toi.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, quel âge tu as et ton parcours un petit peu et qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui en fait?
Je m'appelle Clémence, j'ai 26 ans, je suis parisienne et en fait l'année dernière j'ai été diplômée de d'AgroParisTech, une école d'ingénieurs en agronomie. Donc j'avais fait avant un DUT en agronomie aussi, à Nancy. Et j'ai fait plusieurs stages à l'étranger, à la fois dans des fermes, j'ai fait aussi dans un refuge pour animaux d'élevage. Et j'ai fait une alternance pendant mes études d'ingénieur dans la grande distribution. Et du coup, tout ça, voilà, ça m'a amené à être assez polyvalente et à me poser beaucoup de questions en fait sur le monde qui nous entoure, donc notamment tout ce qui est au niveau de l'environnement, donc l'agriculture, l'alimentation aussi, mais surtout l'écologie en fait, relier tout ça à l'écologie. Et du coup j'ai décidé de partir pendant 6 mois à vélo en France pour trouver des réponses à mes questions sur l'écologie, voilà.
Et du coup, tu parlais un petit peu de ce que tes études t'ont apporté en termes de prise de conscience. Est-ce que ta prise de conscience, elle a commencé à ce moment-là ou elle avait déjà commencé avant?
Je crois qu'elle a commencé très tôt parce que je me rappelle que j'étais en primaire, je ramassais des déchets dans la cour. Donc, et je voulais être écologue. Donc, voilà. Après, j'ai forcément, avec l'adolescence, je me suis un petit peu, pas perdue, mais éloignée de ça au début. Et finalement, après, ça a repris le dessus quand je suis arrivée au lycée. Et très tôt aussi, dans mon adolescence, j'habitais chez mes parents. Et en fait, je m'intéressais à la consommation bio, les AMAP, tout ça, dès que ça a commencé à arriver en 2009, quoi. Enfin, il y a 10 ans, c'était pas encore très connu.
Ta famille aussi, c'est quelque chose qu'ils avaient à cœur ou c'est toi qui les a inspirés, justement?
Non, on va dire que c'est moi qui ai commencé un peu tout ça. Et ils suivent, mais à leur rythme, quoi. C'est pas autant que moi. Enfin, j'essaye de les convaincre en montrant le bon exemple, tout ça. Et voilà, ils font leur chemin à leur rythme, on va dire. Chacun a son déclic à son moment, quoi. Enfin, on peut pas forcer les gens. Donc, je les ai aidés à changer quelques trucs et je suis contente déjà. Même si ça va pas très vite parfois, c'est pas grave.
Qu'est-ce que tu penses que ça a eu comme un impact, cette prise de conscience, sur ta manière aussi d'appréhender le voyage et la mobilité?
Bah oui, parce que du coup, sinon, j'aurais pas choisi le vélo, je pense. Enfin, pour moi, le vélo, c'était vraiment la chose qu'il fallait que je fasse, parce que pareil, enfin, j'étais une consommatrice d'avion avant. Enfin, en 2018, donc c'était qu'il y a un an, et j'ai quand même pris l'avion pour aller très loin. Donc, du coup, j'ai beaucoup culpabilisé. Quelques mois après, j'ai commencé vraiment à me dire, mais est-ce que c'était vraiment indispensable? Et ouais, c'est sûr qu'avoir pris l'avion et aussi maintenant voir qu'il existe plein d'autres manières cool de voyager, ça, c'est sûr que ça m'a fait prendre conscience de l'impact du voyage, quoi. Avant, on ne voyageait pas comme ça aussi facilement, aussi loin. Et on n'était pas plus malheureux. Et maintenant, tout le monde veut aller voir tel endroit parce que c'est super beau, parce que les réseaux sociaux le montrent. Et on voit les impacts. Hein. Déjà, rien que le voyage, ensuite le tourisme de masse. Enfin, je pense qu'il faut faire un petit sacrifice pour préserver la planète, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Et le vélo, franchement, je sais que tout le monde ne peut pas. Et encore, j'ai rencontré un gars qui faisait un voyage à vélo avec un collègue à lui. Il était handicapé et du coup, il avait un vélo en fait où il pédalait avec ses bras. C'était trop bien. Donc voilà, les freins pour le vélo, faudra bien me les expliquer parce que c'est vraiment... Enfin, en France, on a beaucoup de pistes cyclables aussi. Les paysages, ils s'enchaînent progressivement et c'est agréable, quoi, vraiment. On fait des super rencontres. Bon, alors que quand on est dans un avion, on a juste envie d'arriver, quoi. Alors que là, le voyage à vélo, c'est pas le... L'arrivée qui compte, c'est vraiment le voyage. C'est trop bien.
Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le vélo plutôt que, par exemple, le train ou les transports en commun ?
Le vélo, ce qui est bien, c'est qu'on est hyper libre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'horaire. Si, à part la nuit, on va rouler la nuit, mais il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de problème de parking. Enfin, voilà, on peut aller partout. C'est trop la liberté, en fait, le vélo. Vraiment. On prend quand on veut, où on veut. Zéro dépense parce que il n'y a pas d'essence. Après, s'il y a des dépenses pour les réparations, mais ça c'est normal, c'est comme tout outil de travail, tu dois en prendre soin après. Le côté challenge et le côté sportif, pour moi, c'était hyper important. Et ouais, le fait de faire le Tour de France, je me suis dit que ça pouvait être trop bien. Et ça se développe de plus en plus, donc je me sentais pas seule, quoi. Donc quand j'ai commencé à préparer mon projet, je me suis dit, ah, mais il y a plein de gens qui le font. Enfin, ça commence vraiment à devenir un peu démocratisé, quoi. Ça me tenait à cœur le vélo parce que moi je suis membre d'une association qui s'appelle la Recyclerie Sportive. Tous les équipements qu'ils ont, c'est des équipements de seconde main qu'ils ont récupérés, qu'ils ont réparés. Et ça fait depuis 2016 que je suis membre et j'avais vraiment envie de partir avec un des vélos de la Recyclerie Sportive parce que comme ça, ça fait aussi de la pub pour le matériel d'occasion et ça c'est hyper important. Parce qu'en fait, moi, mon vélo, c'est vraiment un vélo d'occasion, quoi. Donc, pour montrer que pas obligé d'acheter tout le matériel neuf pour partir, en fait.
Et t'as fait pareil pour tout le reste de tes équipements ? Ça vient de la recyclerie ?
Il y a pas mal d'équipements, ouais. Il y a mes sacoches. Après, il y avait des choses que j'avais déjà, des sacs à dos, des trucs comme ça. Sinon, je me suis fait prêter des choses aussi, des clés Allen, des trucs comme ça. Il y a une pompe à vélo prêtée. Puis après, j'ai aussi beaucoup... chiné sur Vinted, plutôt côté équipement, habits et tout. Parce que j'avais rien, hein. Moi je faisais pas de vélo avant. Donc j'avais les cyclistes, là, les shorts un peu renforcés, là, j'avais pas. Après j'ai quand même acheté 2-3 trucs parce qu'en fait l'occasion, le seul inconvénient et encore, c'est que ça prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'on peut pas aller dans un magasin, on achète ce qu'on veut. Non, il faut un peu faire des recherches pour savoir, pour trouver vraiment ce dont on a besoin. Et c'est vrai que deux, trois semaines avant de partir, il me manquait des choses et j'avais été sur Vinted ou dans la recyclerie sportive et j'avais pas trouvé. Du coup, j'ai dû acheter des trucs neufs, mais c'est vraiment... j'ai 3 trucs neufs, quoi. C'est mon anti-vol, ma sacoche avant et genre mon cintre ergonomique de vélo. Ça, c'est des choses que tu peux pas trouver.
Tu disais que c'était la première fois que tu faisais autant de vélo. Comment tu t'es préparée à ce challenge ?
Psychologiquement déjà, parce que ça faisait 6 mois avant de partir que j'avais commencé à m'y mettre, à préparer. Après, je suis déjà sportive de base, j'ai fait de la course à pied, un peu plus de 10 ans de course à pied. Et là, ça faisait 2-3 ans que je faisais de la musculation et 1 an que je faisais du crossfit. Donc ça prépare quand même, enfin je suis quand même sportive un petit peu de base. Et sinon, 1 mois avant de partir... j'ai fait des sorties vélo avec les Go, c'est un groupe de filles à vélo, c'est les Girls on Wheels. Et en fait, tous les mercredis et parfois les week-ends, elles organisent des sorties à Paris à vélo, que entre filles, avec des niveaux différents. Et du coup, voilà, 1 mois avant de partir, toutes les semaines, j'allais les rejoindre et on faisait des petites sorties. Et donc, ça m'a un peu préparée, mais dans tous les cas, ça m'aurait jamais préparée à la réalité donc du voyage, c'est-à-dire vraiment avec toutes les sacoches, tous les bagages pleins. Donc le côté équilibre du vélo, ça, bah, je ne savais pas. C'était dur au début. Trafic routier un peu fou. Et puis ouais, les côtes, les intempéries, tout ça, ben, t'es pas préparée quand tu fais ça, mais physiquement ça va, j'étais plutôt prête.
Ton meilleur moment alors sur ta bicyclette?
Ah, il y en a plein, il y en a plein. Parfois t'as juste, quand tout va bien, tu vois, t'as le temps qui va bien, la bonne pente, donc ça descend un peu. Tu vois, le vélo, il est nickel, il n'y a pas de problème et tout. Je sais pas, tu as trouvé le logement, enfin, tout est bien organisé. Et genre là, je sais pas, tu as un sentiment de liberté, de flottement extrême que j'avais jamais ressenti avant de faire du vélo comme ça, quoi. Vraiment. C'est trop bien. Donc ça m'est arrivé quelques fois quand même. Vraiment, j'ai peur d'ailleurs, là, quand je vais bientôt rentrer, ça va me manquer, vraiment. Parce que là, c'est des paysages où il est vraiment trop beau, il y a personne. Tu t'arrêtes juste parfois pour écouter la nature, c'est trop bien. Parfois, tu vois un animal qui passe, un écureuil, un renard. Quand je suis arrivée la première fois et que j'ai vu l'océan à Piriac-sur-Mer, c'était trop bien parce que j'adore l'océan. J'ai fait la côte ouest à vélo jusqu'à Royan et c'est trop beau.
Et t'aimerais repartir en voyage comme ça à vélo autre part ?
J'aimerais bien, ouais. Là, je suis en train de réfléchir pour partir en Allemagne. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop envie de repartir toute seule. Là, c'est juste que c'est un peu long, quoi. Si moi, je suis quand même à 80% toute seule sur le vélo. Du coup, c'est super. J'adore être toute seule. Mais voilà, je pense que quand le bonheur est partagé, ça peut être encore plus décuplé, quoi. Après, je regrette pas du tout d'être partie tout seul. Au contraire, j'aurais jamais autant kiffé si j'étais partie avec quelqu'un parce que là, j'étais vraiment libre de mon emploi du temps, de mes visites, des endroits où je voulais aller. Donc, je regrette pas. Mais je pense que le prochain voyage, ce sera peut-être avec quelqu'un. Après, je sais pas qui.
C'était quoi tes premières impressions de tes rencontres avec les agriculteurs ?
Les agriculteurs qui te racontent un peu leur histoire et qui te disent qu'ils ont tel ou tel frein et qu'ils aimeraient bien évoluer, mais que c'est compliqué niveau politique, niveau financier, tout ça, et c'est toujours très, très touchant, quoi.
Du coup, là, c'était intéressant, tu parlais des freins, donc des agriculteurs que tu as rencontrés. C'est quoi les freins principaux avec lesquels ils ont du mal ?
Il y a beaucoup de freins politiques, mais il y a aussi des freins psychologiques, c'est-à-dire... ils ont toujours fait comme ça, ils sont pas forcément bien renseignés, bien accompagnés pour évoluer. Et ils ont peur de changer. Il y en a qui sont en fin de carrière, ils vont pas faire des nouveaux investissements juste parce que ils doivent faire un truc écologique alors que dans 3 ans, ils sont à la retraite, quoi. C'est des investissements qui sont sur plusieurs dizaines d'années en général. Et y a pas mal de freins. Après, forcément, il y a les freins politiques, mais ça, c'est même comme les citoyens normaux. Nous, on essaye de faire des choses à échelle individuelle parce que, justement, le gouvernement ne nous dit pas de les faire. Alors que si jamais c'était une obligation pour certains trucs, je pense que ça irait plus vite, quoi, l'évolution et essayer de réduire un peu la pression du changement climatique. Donc voilà, c'est un peu pareil au niveau agriculture. Il y a beaucoup de pression au niveau politique, ils peuvent pas forcément tout faire comme ils veulent. Et ça, malheureusement, c'est compliqué parfois, quoi. Il y a des contrôles qui leur mettent la pression, il y a toujours des réglementations qui évoluent, ils doivent toujours changer des choses. Et derrière, leurs produits sont pas valorisés en fonction, en fait. C'est-à-dire que, ok, ils vont faire un investissement parce que la loi, maintenant, elle oblige à faire ça. Sauf que, du coup, ils vont mettre de l'argent dedans. Mais derrière, leurs produits, c'est le même prix, quoi. Tu vois ? Du coup, c'est compliqué.
Mais du coup, tu as senti cette pression des distributeurs sur le prix, en fait.
Ah, c'est pas forcément que les distributeurs, hein. Ça, c'est le prix du marché en général. Même parfois, les prix européens qui sont soumis au prix du marché, même mondial. Hein. Par exemple, pour les céréales, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur prix, quoi. C'est le prix du marché, point barre. Enfin, pas que les distributeurs, mais il y a le consommateur. Le consommateur qui veut pas forcément acheter. Le produit un peu plus cher aussi. Il va préférer s'acheter un téléphone ou alors partir à Bali, voilà. Et il va négliger la nourriture. Et ça, c'est hyper grave. Parce que du coup, comme il va acheter le produit le moins cher, en général, c'est celui qui n'est pas français, qui va avoir fait des kilomètres, qui ne va pas être soumis aux mêmes normes et aux mêmes réglementations sanitaires ou même, tu vois, les travailleurs qui ne vont pas forcément être payés au juste prix. Et bien ça, tout ça, il ne se rend pas compte, le consommateur, en choisissant le produit le moins cher et le moins bien tracé, le produit qui vient le plus loin possible, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et beaucoup d'agriculteurs dénoncent ça, quoi, vraiment. Enfin, voilà, la nourriture, je crois qu'il y a 50 ans, c'était, je sais pas, peut-être plus de 50% du budget des Français. Et maintenant, c'est même pas 35%.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tes rencontres avec les agriculteurs ?
Bah, déjà qu'il y avait un cliché que beaucoup de citadins ont sur les agriculteurs, qui sont très fermés d'esprit, qui sont un peu dans leur coin comme ça. Et en fait, eux, ils veulent juste discuter avec plein de gens, en fait. C'est juste que, comme il y a un cliché, il y a une sorte de tabou autour de ça. Et c'est super intéressant en tant que citadin ou même juste citoyen qui mange, d'aller voir un agriculteur qui nous produit ce qu'on mange, en fait. Ça, c'est hyper, important. Ils ont tous été super ravis de discuter avec moi. À chaque fois, moi, je leur dis que l'interview que je fais, elle dure à peu près une heure. Mais souvent, ça durait plus, quoi. Ils me montraient toute leur ferme, toutes leurs machines, toutes leurs parcelles. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'il faut vraiment aller discuter avec eux, aller les voir pour savoir comment ça se passe. Donc, c'est vraiment super cool. C'est agréablement surprise. Même si, en vrai, j'en doutais pas, mais là, je l'ai vérifié concrètement, quoi.
Et du coup, après ça, tu as déjà en tête quelque chose que tu voudrais faire ou pas encore ?
Là, ça change un petit peu tout le temps, mais en ce moment, je suis plus sur la rédaction d'un livre qui mettra un petit peu tout ce que j'aurais appris en synthèse, qui servira à la fois d'un guide pour les agriculteurs et les professionnels que j'aurais rencontrés, mais aussi pour tout type de lecteur qui a envie de s'intéresser à ces questions-là de transition et d'agriculture. Et après, pourquoi pas faire des conférences, tout ça. Bon, voilà. Pour l'instant, je suis sur l'écriture, quoi. Voilà. Comme l'agriculture, c'est quand même un sujet qui est relatif à l'écologie, il y a beaucoup de gens qui sont un peu écolos, qui en parlent, mais c'est pas leur sujet principal. Du coup, j'essaie d'apporter des choses un peu plus techniques, concrètes sur l'agriculture. Donc, avec les réseaux sociaux, j'essaie d'expliquer un peu à quoi sert cette plante, tout ça. Donc, j'essaie d'apporter quelque chose, quoi. Je sais pas si c'est... je suis la seule à faire ça, mais c'est cool que des gens s'y intéressent, en tout cas.
Et du coup, au début, tu me disais que t'es partie pour chercher des réponses à tes questions. Tu les as trouvées, les réponses ?
Franchement, je suis pas loin, là. Après, moi, il faudra que je fasse tout un travail de recherche complémentaire, quand même. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole du Saint-Dieu agriculteur, il faut la vérifier aussi. Hein, parce que quand il me donne des chiffres, je suis là, ok, mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, voilà, il faut que je vérifie derrière. Donc là, mais sinon, ouais, quand même, une de mes questions, c'était sur le glyphosate. Donc, qu'est-ce que vous pensez du glyphosate et de toute la médiatisation qui a été faite dessus ? Et quelles seront les conséquences de l'interdiction du glyphosate, selon vous ? En gros, et ça, je commence vraiment à avoir un avis dessus maintenant. Sur le bio aussi, est-ce que le bio, selon vous, pourra nourrir la planète ? Et ça, on n'est pas sûr encore. Je vous spoil pas, parce que après, ça va être dans mon livre. Mais, mais voilà. Et après, aussi, moi, ça m'intéresse les questions sur l'alimentation. Donc, quelle alimentation serait le plus durable, en fait, et notamment avec le véganisme. Donc, je pose toujours la question sur qu'est-ce qu'ils pensent du véganisme et des gens qui ont arrêté de manger de la viande, des produits animaux. Donc, ça aussi, c'est important. Je le pose vraiment à tout le monde, même les gens qui sont pas éleveurs. Hein. Et même les gens qui sont éleveurs, tant pis. Et ils ont un avis dessus, donc c'est top. Après, ça va être surtout quelle est votre définition de la transition écologique ? Alors ça, c'est un peu abstrait, hein. On a tous un peu notre définition. Quels sont les freins principaux rencontrés ? Et quel est votre avenir idéal, en gros? J'aime bien demander cette question. Dans l'idéal, qu'est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture ou juste de votre ferme, quoi.
Avec toutes les interviews que tu as faites d'agriculteurs, est-ce que tu aurais des conseils aux auditeurs pour justement mieux manger?
Ouais, j'ai plein de conseils. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc, je trouve que c'est vraiment très important de regarder l'origine des produits qu'on mange. Que ce soit des produits bruts ou des produits transformés. C'est plus difficile avec un produit transformé parce qu'il y a plusieurs origines. Mais que ce soit brut ou transformé, il faut vraiment regarder l'origine du produit. Et ne pas forcément choisir le moins cher. D'abord, regarder l'origine. Et si c'est français, c'est-à-dire à 100%, bah c'est bien, quoi. Je dis pas de plus acheter de Goya ou des bananes, des trucs comme ça. Voilà, ça, après, tu peux pas en avoir en France. Mais par exemple, de la viande, eh ben, on le sait pas trop, mais même la viande qui a été produite en France, eh ben, elle peut avoir mangé du soja qui vient du Brésil. Tu vois? Alors que ça a été une viande qui a été élevée, nourrie en France, tu vois. Eh ben, il faut essayer de se renseigner sur ce que la viande a mangé si on ne veut pas, par exemple, participer à la déforestation. Et ça, personne ne le sait, quoi. Moi, je vois les éleveurs, il y en a beaucoup qui... Il y a 5 à 10% de soja dans la ration des animaux. Et ça, alors que pourtant, ils ont une ferme à taille humaine, leurs animaux, ils sont pas maltraités en particulier ou quoi. Mais voilà, juste, tu vas manger de sa viande-là, mais tu vas participer indirectement à la déforestation de l'Amazonie. C'est horrible. Alors tu penses manger bien, tu vois.
Et eux, ils le savent, ça? Ils s'en rendent compte?
Ils le savent, mais une ferme, c'est une entreprise. Et le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. Et ça, bah, c'est la réalité. Et quand tu vois que le soja, c'est quand même un apport en protéines... qui va permettre d'augmenter la production de l'animal, que ce soit en viande ou en lait. Là, je parle des bovins, mais ça peut être d'autres animaux. Et que c'est moins cher, bah forcément, enfin, tu vas prendre le moins cher, en fait. Alors que si tu veux un truc français, tu vas en avoir pour 2 à 3 fois plus cher. Sauf que derrière, tu peux pas vendre ta viande 2 à 3 fois plus cher parce que personne ne va te l'acheter.
Ouais, du coup, le vrai problème, en fait, il est là, quoi. On a perdu l'habitude de payer les choses au prix où ça devrait être, quoi.
C'est ça, en fait. Mais je comprends, tu vois, un consommateur qui a pas forcément de super méga moyens, par exemple, même juste un étudiant, tu vois, bah forcément, c'est compliqué. Après, la solution, ce serait d'acheter vraiment beaucoup moins de viande, voire pas, en fait. Ou vraiment manger une fois ou deux dans le mois de la super méga viande. Ça, je pense que ce serait une bonne solution. Mais est-ce que tout le monde est prêt à le faire? Je suis pas sûre, hein.
T'es végane, toi, du coup, ou pas?
Ouais, moi, je suis végane. Après, je le dis pas trop sur les réseaux parce que, comme c'est pas le but du projet, enfin, je fais pas de la pub pour le véganisme, du coup, je préfère pas trop le dire. Après, je m'en cache pas, donc...
Ça fait longtemps?
Ça fait 4 ans et demi, ouais. Et avant, j'étais 2 ans végétarienne. Donc, ça fait 6 ans et demi que je mange pas de viande.
Ta démarche est plus dans le côté écologique?
Ouais, global, en fait. Mais même si le véganisme, c'est une de mes questions, justement, parce que je voulais savoir quelle est la place du véganisme dans la transition écologique? Pour moi, c'est une question qui me tient à cœur, tu vois. Mais c'est une des questions sur 10 questions, tu vois. J'ai pas, moi, à dire, entre guillemets, ce que je mange. C'est pas, ils ont pas à le savoir.
C'est un détail de ta vie personnelle.
C'est ça, c'est ma vie personnelle. Et même si peut-être que... Enfin, même sûrement que le fait que je me sois posé des questions à un moment donné sur mon alimentation et que je l'ai changé en fonction, forcément, ça a joué sur le projet, forcément. Si j'avais pas cette question sur le véganisme, peut-être que mon projet serait différent, ou est-ce que je serais même partie, je sais pas, tu vois. Donc ça, forcément, ça joue. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a un tel fossé entre les éleveurs et les véganes. Comment on peut faire évoluer si personne se parle? Ou alors si tout le monde se tape dessus? Et ça me tenait vraiment à cœur, même si je dis pas que je suis végane. Je m'en cache pas, s'ils me posent la question, pas de souci, je le dis. Je vais essayer de trouver des solutions à ça, quoi. À rétablir le dialogue et essayer de trouver des solutions ensemble.
Ah, j'aime bien ta démarche, parce que c'est vrai qu'au final, fin, quand tu penses, si tout le monde était vegan, ce serait quoi leur avenir? Enfin, se reconvertir, c'est pas juste du jour au lendemain, tout s'arrête, quoi.
C'est vraiment une question qui est hyper importante, parce que est-ce que c'est vraiment possible que le monde soit vegan, tu vois? Et ça, aujourd'hui, la question, bah, la réponse, pour l'instant, c'est non, quoi. Mais il y a plein de vegans qui se diraient, bah si, ouais, mais est-ce qu'ils ont réfléchi à toutes les. Tout, quoi. Enfin, même moi, en tant que vegan, c'était dur à dire, tu vois, que c'est pas possible. Donc, c'est une question qui m'intéresse vraiment. Et je dis pas, là, aux gens qui veulent mieux manger, d'arrêter totalement la viande. Je dis pas ça. Parce que ça, c'est une question personnelle. Après, si nous, si c'est, c'est un respect de l'animal derrière qui est vraiment poussé. Donc, ça, tout le monde n'a pas le déclic dans sa tête. Mais juste se renseigner sur ce que l'animal a mangé. Et ça, c'est hyper important. Parce que même dans les produits laitiers, hein, c'est des vaches, hein, en général. Du coup, eux aussi, ils ont mangé du soja. Hein. Donc, enfin, voilà. C'est même quand on consomme des produits laitiers, on peut participer à la déforestation. Normalement, quand tu demandes à l'éleveur, il va pas mentir. Hein. Il te dit, bah, il te dit comment il est nourri, l'animal. Hein. Il va pas dire, ah bah non, il n'y a pas de soja alors qu'il y en a. Non, non. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer avec les agriculteurs. Parce que eux, ils sont. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, ils étaient plutôt honnêtes, j'ai l'impression.
Qu'est-ce que tu penses que ça va changer pour toi, ce voyage que tu viens de faire et ces rencontres?
Ah, bah, ça a changé ma vie. Bah, maintenant, je me poserai plus la question des actions que je fais et de leur impact. Ça, c'est sûr. J'ai vraiment une prise de conscience globale sur toutes les actions qu'on peut faire dans la vie. Et le voyage aussi, le voyage à vélo, maintenant, ben, j'aurais plus peur de partir. Parce que quand c'est la première fois qu'on en fait un, on appréhende à fond. On ne sait pas si on va savoir réparer une roue, on ne sait pas si on va tomber, est-ce qu'on aura tout ce dont on a besoin dans nos bagages, on n'a pas oublié des choses, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour manger, pour dormir, tout ça. Mais maintenant, ces questions-là, ça ne me fait pas du tout peur. Je pourrais repartir.
Wow. Tu aurais des conseils d'ailleurs pour tenir sur la distance?
Alors, il faut bien dormir. En général, quand on fait du sport tous les jours, on dort bien. Mais ouais, non, c'est important. Après, un conseil que je n'applique pas du tout, apparemment, il faut bien boire. Sinon, après, un conseil pour tenir. C'est vrai que là, le dernier mois, il n'est pas facile. Hein, parce que j'arrive à la fin et j'ai envie de rentrer quand même. Hein. Et le conseil pour tenir, moi, je dirais, du coup, maintenant, c'est... Bah, c'est d'avoir préparé un peu tout ton itinéraire jusqu'à la fin. Parce qu'au début, bah, pendant 6 mois, tu peux pas faire tout. Faire au jour près, c'est pas possible. Donc là, maintenant, j'ai vraiment préparé tout l'itinéraire. Je sais quand je vais passer et où je vais passer, quoi. Donc ça, c'est bien parce que ça te met comme un peu un compte à rebours, tu vois. Et il faut se dire qu'après, quand tu rentres, tu vas avoir envie de repartir, tu vois. Du coup, faut profiter du moment présent parce qu'après, c'est fini, tu vois. Ça, c'est pas facile, hein, mais... Parce que je m'en rends pas compte encore à quel point ça va me manquer, tu vois, le voyage. Mais pour avoir discuté avec des gens qui ont fait aussi des voyages à vélo et qui sont rentrés et qui m'ont dit tu vas voir, ça va te manquer, tu vois, juste le vent, genre, tu fais du vélo, le vent qui... Et le soleil qui tape sur la peau et tout. Enfin, c'est des sensations que tu vas pas forcément retrouver, quoi. Tout de suite, en tout cas. Donc, faut en profiter. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de me dire, de toute façon, j'y suis bientôt à Paris, hein, en tous les cas. Donc, j'ai juste à profiter de chaque moment.
T'aurais des conseils, du coup, pour les gens, s'ils voulaient voyager de manière plus responsable, avec le moins d'impact négatif sur la planète?
Bah déjà, posez-vous la question si vous voulez prendre l'avion. Est-ce que c'est la seule alternative que vous avez? Est-ce que ce voyage est vraiment nécessaire? Enfin voilà, moi je dis pas que je prendrai plus jamais l'avion. Mais par contre, si je le prends, c'est vraiment que j'ai pas d'autre choix et que j'ai vraiment besoin d'aller à tel endroit. Et c'est vrai que parfois je suis un peu deg parce que j'aimerais bien par exemple aller en Amérique du Sud. Mais voilà quoi, est-ce que vraiment c'est nécessaire, tu vois? Que je suis jamais allée, et voilà, c'est... Mais bon, je pense que je suis même pas sûre d'y aller, quoi, du coup, à cause de ça. Mais est-ce qu'après, il faut vivre dans la peur? Est-ce qu'il faut vivre dans la frustration? C'est une autre question. Sinon, après, si vous voyagez, essayez d'avoir des contenants réutilisables avec vous, toujours, parce qu'en fait, quand on voyage, on va aller manger à droite à gauche, on va pas forcément être sûr d'avoir de quoi cuisiner ou quoi, et du coup, c'est important d'avoir... Je sais pas, toujours des sacs à vrac, toujours des couverts, un petit verre ou une gourde, des trucs comme ça. Ça, même dans le quotidien, c'est tout hyper important. Par exemple, on va se dire aujourd'hui je vais au boulot et c'est pas le jour des courses, mais en fait on va se dire que ça, il nous manque ça, je vais juste acheter ça. Ben, juste avoir un sac à vrac ou un petit sac tu vois, réutilisable, ben, pour un imprévu, ça réduit déjà l'utilisation de sacs en plastique, voire même de sacs en papier aujourd'hui qui sont des déchets quand même. C'est un peu moins grave que le plastique parce que ça se dégrade plus vite, mais c'est quand même un déchet inutile, quoi. On peut avoir des sacs faciles à vrac ou des sacs réutilisables. Ça, et puis sinon, si vous faites de la voiture, essayez le covoit, je sais pas moi, ça peut être sympa. Puis c'est même le côté social, c'est cool. Enfin, il y a plein de trucs super à découvrir autour de soi. Donc, en France, moi là, j'ai parcouru un peu plus de 4000 km, mais j'ai fait une partie de la France, quoi. Là, je sais qu'il y a plein de choses que j'ai envie de voir, genre le Verdon, j'ai envie d'aller dans les gorges du Verdon, j'ai envie d'aller dans le Pays Basque, enfin, même si je suis déjà allée dans le Pays Basque, enfin, il y a mille moyens de voyager, et chaque voyage est différent et unique, donc c'est trop bien.
Et c'est marrant parce qu'on va revenir en arrière, tu sais, à l'époque des explorateurs.
C'est un retour vers la sobriété un peu, hein. Et ça c'est hyper important. Essayer de réduire un peu nos envies et nos besoins pour aller vers des choses les plus simples. C'est ça qui va avoir le moins d'impact. Mais c'est pas facile, hein, parce qu'on s'est habitué depuis longtemps à pouvoir avoir telle chose tout de suite, facilement, pas cher. Et ça, c'est ça qui a trop d'impact négatif sur tout. Donc ça, il faut vraiment essayer d'en prendre conscience et essayer de revenir vers des choses simples, locales, sociales, toujours aussi faciles d'accès, mais juste alternatives. Par exemple, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, mais c'est trop simple à mettre en place, mais juste personne n'y a... Enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui y avait pensé. C'est une fille qui a mis sur sa boîte aux lettres une feuille avec tous les objets qu'elle pourrait prêter à ses voisins. Donc genre, je sais pas, une ponceuse, un batteur électrique, une tente, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça, mais si tout le monde le faisait, ce serait trop bien, on serait pas obligé d'acheter tout le temps les trucs, quoi. C'est des trucs simples comme ça qu'on n'y prend pas forcément, parce que maintenant, on est devenu très individualiste. Mais en fait, c'est hyper important, déjà pour le côté social, et en plus pour l'écologie et même l'économie. Hein.
Ouais, t'as raison, parce que c'est vrai qu'on a des tas de choses, ça reste dans les placards, c'est pas utilisé...
Ouais, genre l'appareil à raclette, le truc typique, genre tu t'en sers 5 fois par an.
Et encore, t'es généreuse, hein.
Non, mais voilà, le truc, tu peux dire, bah, je vous le prête, et puis tu sais, bah, si t'en as besoin un jour et que l'autre, c'est le lendemain, bah, nickel, quoi. Pas obligé d'acheter un appareil à raclette par personne de l'immeuble, quoi. Comme ça, on n'y pense pas, parce que, en fait, c'est pas si cher, en fait, c'est plus simple, comme ça, je l'ai quand je veux, mais en fait, non, faut juste changer un peu notre état d'esprit. Même juste le fait de s'inscrire sur le site Warm Showers ou Couchsurfing. Ça, il y a plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils appréhendent, ils ont peur, ils pensent que ça va leur prendre du temps et tout. Alors qu'en fait, c'est top. À chaque fois, c'est des rencontres top qu'on fait. Moi, il y a des endroits en France où il n'y avait pratiquement pas de Warm Showers, des gens comme ça. Bah, j'ai un peu plus galéré pour trouver des logements alors que si les gens connaissaient déjà un peu mieux ça et s'y mettaient, ça permet vraiment de se rassurer sur le voyage et de rencontrer des personnes top. Et pas que s'inscrire sur Airbnb.
C'est pas pareil parce que t'as ce côté financier derrière, c'est une transaction, quoi.
Quand je vais chez des Airbnb, je discute pas de la même manière qu'avec les gens sur Warm Showers. C'est un peu plus pour la forme, j'ai l'impression, que vraiment pour un vrai intérêt. Mais après, moi, c'est mon expérience, quoi. Après, j'ai déjà utilisé Airbnb, je l'utilise encore. Mais juste, faut pas que ce soit la première et la seule alternative. Faut essayer de voir s'il n'y a pas d'autre chose. Mais dans les villes, maintenant, eh ben, y a tellement de Airbnb qu'il y a des gens qui arrivent dans la ville et ils peuvent même pas trouver de location.
Ah, mais carrément, carrément. Même, c'est un business, hein. T'as des gens, ils achètent des apparts pour les mettre en Airbnb, hein.
Et du coup, il y a plein de gens qui peuvent pas se loger.
Ça, c'est pas normal, ça. Alors qu'à côté de ça, t'as vraiment des gens généreux et altruistes sur des plateformes comme Couchsurfing.
J'ai même eu un gars, un jour, qui m'a accueilli un jeudi soir dans son appart. Il m'a dit, bon, bah, je suis pas là de tout le week-end, je rentre que lundi matin. Et j'ai resté tout le week-end chez lui. C'est ouf! Il m'a dit, sers-toi, il s'est retourné dans le frigo et tout. Après, tu sais, je lui ai refait des courses et tout. Mais genre, la confiance, mais incroyable, quoi, c'est trop bien. J'en deviens même étonnée de la générosité des gens, quoi. Parce que j'ai l'impression que moi, est-ce que j'arriverai à faire ça? Est-ce que... Je sais pas. En tout cas, ça m'a vraiment ouvert l'esprit à ça. Après, je sais que c'est difficile parce que quelqu'un entre Airbnb et Work Showers, forcément, bah, il va choisir Airbnb parce que bah, ça va lui rapporter des sous, tu vois. Mais tu vas avoir des sous, tu vas dépenser un truc, alors que tu vas recevoir quelqu'un et tu vas discuter avec lui, bah, tu vas plus t'en rappeler que de la chose que tu as achetée, en fait. L'écologie et le social, c'est hyper lié.
T'aurais des livres, des podcasts ou quoi que ce soit à recommander?
Moi, je suis sur un podcast qui s'appelle Pause Vélo. Et pareil, je fais un peu des chroniques. C'est que sur le vélo et sur... en gros, c'est toutes les actualités autour du vélo. Et c'est super intéressant, enfin, si vous intéressez un peu au vélo. Après, franchement, un livre que tout le monde peut lire, parce que c'est un tout petit livre qui est super sympa à lire et qui est très simple, qui m'a fait un peu prendre conscience de plein de choses quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. C'était avant que je devienne végétarienne. C'est « La part du colibri » de Pierre Rabhi. Ça, c'est un petit livre vraiment à mettre dans toutes les mains. Mais après, non, là, pour l'instant, j'avoue que je ne lis pas trop en ce moment, mais j'ai plein de références que les agriculteurs m'ont conseillé, tout ça. Donc ça, j'irai voir de plus près après. Je ne peux pas vous les conseiller, je ne les ai pas lus. Après, moi, j'aime bien partager, c'est sympa, là, le YouTuber, qui parle pas mal d'effondrement de la société actuelle. Ça m'intéresse, tout ce qui est collapsologie, ça m'intéresse pas mal. Et ça fait un peu peur, mais à la fois, justement, il faut qu'on ait peur pour réagir, en fait, je pense. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Après, comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne. Aussi, ça fait un peu peur, hein, mais bon, bah... Je pense qu'il faudrait que tout le monde l'ait lu pour se rendre compte que il va sûrement y avoir quelque chose qui va se passer. On ne sait pas trop exactement quand et comment, mais qu'il faudrait trouver des solutions alternatives et anticiper un petit peu à échelle personnelle. Hein. Et sinon, après, ben, si vous êtes à Paris ou à côté de Paris, vous pouvez aller voir la recyclerie sportive. J'avoue, je fais un peu de pub, mais vraiment, c'est des gens super qui, en plus, font de la réinsertion professionnelle. Et voilà, ils ont plein de matériel sportif. Ils réparent les vélos. Si vous avez un problème sur votre vélo ou que vous voulez acheter un vélo, vous allez les voir, ils sont top. Ils vous aident à réparer les vélos, donc c'est top. Voilà, je vous conseille d'aller les voir. Mais il n'y avait pas que le vélo, hein. ils ont tous les sports. Ils ont même des trucs neufs, en fait, c'est des stocks que leur envoient les marques ou les, tu vois, genre Décathlon et tout. Ou alors les petits défauts et tout, mais ils sont tout neufs. C'est une association à but non lucratif.